La philosophie morale de Vladimir Jankélévitch explicite une théorie de la justice dans des chapitres comme « De la justice à l'équité » de son traité des vertus, ou comme « Les complots de la conscience, comment préserver l'innocence » de son livre testamentaire « Le paradoxe de la morale ». Le professeur de philosophie dans l'époque, donc, aujourd'hui, de l'irréductibilité de la conscience morale au déchiffrement paradoxal de l'action, c'était dans les après-midi de France Culture. Vladimir Jankélévitch en direct avec les auditeurs, les 7 et 8 juin 1978, le militantisme, l'engagement, l'action politique, suivi de la question « Les philosophes peuvent-ils et doivent-ils proposer une morale ?» Thierry Garcin, Claude Hudelot.
Professeur de philosophie, vous avez formé des générations d'étudiants, mais vous avez aussi donné le goût de la philosophie à des milliers d'amateurs grâce notamment à 25 ans de cours qui étaient radiodiffusés. Peut-être retrouverez-vous tout à l'heure en ligne, aujourd'hui et demain, bien sûr, sans le savoir, certains de vos auditeurs d'autrefois. S'il faut rappeler que votre père avait traduit en français les œuvres de Freud, il faut également préciser d'emblée que vous vous sentez proche de la pensée de Bergson, que vous avez suivi la période existentialiste de près. Vous vous êtes d'autre part engagé dans le combat de la résistance, c'est important pour la discussion que nous aurons aujourd'hui. Enfin, vous vous êtes toujours appliqué à cerner l'indicible, le je ne sais quoi que recèle toute philosophie et peut-être toute pensée. Cet indicible qui vous fait vous passionner pour la musique, en particulier celle de Ravel, de Debussy et de Fauré. Parmi vos livres qui eurent le plus de retentissement, La mort, Le pur et l'impur, les deux livres étaient publiés chez Flammarion. Et puis le dernier en date où vous répondez aux questions de Béatrice Berlowitz, intitulé « Quelque part dans l'inachevé », c'est chez Gallimard. Thème de notre dialogue d'aujourd'hui, donc, le militantisme, l'engagement, l'action politique. Thème de notre conversation de demain, de ce dialogue avec les auditeurs, où l'éthique d'ailleurs est également présente. Les philosophes peuvent-ils et doivent-ils proposer une morale? Vladimir Jankélévitch, pour commencer, je voudrais vous poser une question un petit peu à contrario. Est-ce que vous avez l'impression, puisqu'il s'agit d'action politique, qu'on peut pratiquer d'une façon, disons, le plus honnête possible, est-ce qu'on peut pratiquer le non-engagement? Est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être indifférent, de s'abstenir des grands débats, des grandes querelles nationales, peut être une action politique?
On pourrait aisément répondre que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Pascal avait déjà dit ça en parlant de ceux qui se soustraient au problème de l'au-delà, de Dieu, qui ne veut pas prendre parti, ils sont ni pour ni contre, et donc ils sont contre. Et celui qui ne s'engage pas, qui ne veut pas s'engager, généralement est quelqu'un qui s'engage quand même tacitement, comme les abstentionnistes auxquels on fait appel pendant les élections, on leur dit, mais généralement en vain, votez parce que en ne votant pas, vous faites le jeu de quelqu'un. Eh bien, celui qui ne votant pas fait le jeu de quelqu'un, et quelquefois le fait exprès pour faire le jeu de quelqu'un, mais même s'il ne le fait pas exprès, prouve par là même que ce qui est vrai d'ailleurs des élections est vrai également dans la vie et dans l'éthique. Et en général, ceux qui ne s'engagent pas au point de vue moral et politique s'engagent fort bien quand il s'agit de la spéculation, de l'action, de la bourse, ce que je sais moi, de faire des grandes affaires, de se livrer à de grandes entreprises, d'escroquer leur prochain, ils montent de grandes affaires, n'est-ce pas? Donc à leur manière, ils s'engagent. Si c'est pour s'engager comme ça, il vaut mieux s'engager en connaissance de cause et pour des causes qui en valent la peine. Donc le mot engagement a surtout un sens quand on n'est pas obligé de le faire. C'est pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles ces titres-là m'avaient pas beaucoup plu, à vous dire la vérité, au début, quand vous nous avez proposé engagement et militantisme, parce que ça me rappelle les bavardages du lendemain de la guerre, du lendemain de la résistance. Je me rappelle qu'à cette époque, tout le monde parlait d'engagement. Tout le monde conjuguait le verbe s'engager. Je m'engage, tu t'engages, il s'engage. Et en général, c'était ceux qui s'étaient engagés à rien, qui posaient ces problèmes. Mais je ne vais pas dire que c'est en soi un bavardage. En soi, c'est très important. Mais ceux qui posaient le problème, le posaient comme si l'engagement n'allait pas de soi, en réalité, n'est-ce pas? Faire de l'engagement un problème, c'est déjà présupposer que l'engagement ne va pas de soi et qu'on pourrait ne pas le faire. Et par conséquent, il n'est pas naturel de s'engager.
Vladimir Jankélévitch, est-ce que lorsqu'il s'agit d'action politique, et qu'on s'engage dans une action politique de quelque ordre que ce soit, est-ce que vous avez l'impression que c'est autant dire non que oui à quelque chose?
Bien, évidemment, en un sens, la question que vous posez, je m'en excuse, pourrait paraître absurde, parce que ça dépend à quoi vous répondez, n'est-ce pas? Si on,
prenez peut-être un cas précis, si vous le souhaitez.
Il arrive que le non soit un oui et le oui un non. Par exemple, je dis, si vous voulez, pour prendre un exemple, mettons logique, n'est-ce pas? C'est plutôt dire non que dire oui. Mais si je dis non à quelqu'un qui me propose de m'engager, justement, et si je réponds non, alors je ne m'engage pas. Donc, comme vous voyez, ça dépend quoi et dans quelles circonstances. D'ailleurs, vous savez, tout ce que nous dirons est précédé toujours, quand on parle de l'engagement, de l'expression « ça dépend ».
La contingence.
Ça dépend toujours. Des circonstances. Ça dépend des circonstances. C'est très circonstanciel. Ça dépend des cas, ça dépend des situations. Ça dépend toujours de quelque chose. Ça dépend des hommes, ou ça dépend des problèmes, des hommes parmi lesquels on vit. En tout cas, je réponds à votre question en disant qu'en moyenne, compte tenu donc de ces distinctions et du fait qu'il serait absurde de dire qu'être engagé, c'est toujours dire non, en moyenne, c'est plutôt dire non que oui. Parce que dans la vie, ce sont des choses qui se proposent et qui s'offrent à nous. Alors quand il y a un problème moral, je sais pas, il faut savoir dire non. C'est ça qui est important. Parce que généralement, on vous tend la main pour que vous la serriez. Et il y a des mains qu'on n'a pas envie de serrer. Il y a des gens qui vous proposent des choses, on me propose une belle affaire. En fait, non, on me la propose pas à moi. On me propose de signer quelque chose. Alors ça dépend, généralement. Généralement, il faut dire oui, là, au contraire, vous voyez. Généralement, il faut dire oui, mais c'est parce que la signature aussi dit non à autre chose. Donc, la question n'a pas beaucoup de sens en elle-même, mais il faut plutôt dire non que oui. Le refus est plus moral, toutes circonstances étant égales par ailleurs, le refus est plus moral que l'acceptation. Le refus est plus moral que le consentement. Le consentement est immoral, voilà, en gros.
Signer des pétitions, par exemple, c'est aussi savoir à côté de, ou plutôt avec qui on les signe.
Oui, alors signer des pétitions, enfin des pétitions, ce sont pas des pétitions, mais enfin, signer, s'associer à des appels, je me suis associé à beaucoup dans ma vie, on me l'a souvent reproché, mais je suis pas le seul d'ailleurs. Nous sommes toute une bande à Paris à faire ça. On nous appelle les professionnels du stylographe, je sais pas comment, les gens qui donc se mettant à l'abri et ne désirant rien signer, prétendent que ce soit que nous nous mettons en avant, n'est-ce pas? Que c'est une façon pour nous d'avoir notre nom dans les journaux. En général, ça nous attire plus dans lui qu'autre chose. Donc en moyenne, il faut quand même signer, même si dans certains cas, on signe de manière inconsidérée. Ça m'est arrivé de me tromper complètement.
Par exemple.
Oh, j'ose pas choisir les exemples. Il vaut même mieux que je ne me les rappelle pas. Je ne les ai pas présents à l'esprit. Mais dans deux ou trois circonstances, j'aurais mieux fait de ne pas signer. Certainement. Mais enfin, je l'ai fait quand même. Et comme de toute façon, on regrette quelque chose, quoi qu'on fasse. Ça fait partie du problème de l'action politique, vous savez ça. Et morale. Quoi qu'on fasse, on regrette quelque chose. On regrette de s'être engagé, de ne pas s'être engagé. On regrette d'avoir signé, de ne pas avoir signé. Eh bien, entre deux regrets, je signe. Si vous voulez.
C'est-à-dire que le fait de s'engager dans une action suppose qu'on fait la part du feu et qu'on est obligé un petit peu d'oublier certains arguments qui vous tiennent à cœur personnellement, mais qui, au niveau d'une responsabilité collective ou d'une responsabilité dans un groupe d'hommes, paraissent moins importantes.
Oui.
C'est la question de la fin et des moyens aussi, d'ailleurs.
C'est ça. Mais ça vient d'une très grande... pas une loi, parce qu'il n'y a pas de loi dans ce domaine-là, mais d'une vérité qu'on vérifie tous les jours, c'est que le milieu politique, social dans lequel nous vivons et où s'exerce à la fois l'activité morale et l'activité politique, n'est pas un milieu aseptique.
Avec des distorsions énormes, d'ailleurs, souvent, entre la morale et la politique.
Et c'est pas aseptique comme une salle d'opération, dans laquelle il n'y a pas un seul microbe, on a tué tous les microbes. On serre des mains qui sont douteuses, on a affaire à des visages douteux, à des personnalités douteuses, et la cause elle-même est probablement impure. Toutes les causes pour lesquelles on milite ne sont pas parfaitement pures à 100%. N'est-ce pas? Elles n'ont pas été passées à l'eau...
L'eau de Javel.
C'est ça, l'eau de Javel, ou aseptisées. Il y a des arrière-pensées, et sans le vouloir, on fait le jeu de quelqu'un. Alors que faire? Que faire? Alors on pourrait en tirer la conclusion de ne rien faire. Mais je n'attire pas cette conclusion.
Vous êtes contre les puristes, ceux que vous appelez les puristes?
Assurément.
Qui refuse de se salir les mains.
Le purisme est plus souvent une paresse et un désir de confort qu'autre chose.
Est-ce que vous avez vu la nature de l'action politique changer, ou évoluer en tout cas, sinon changer?
Non, l'action politique a toujours ressorti à des conditions irrationnelles, contradictoires, et depuis les temps les plus anciens, moi je n'ose pas citer le nom d'Aristote, je ne sais pas si c'est convenable dans une après-midi de France Culture de gâter l'après-midi du public avec le nom d'Aristote. Donc Aristote est le plus moderne des philosophes, de tous les philosophes. Il est modernissime, et notamment dans ce domaine. Il pensait en effet que l'action éthique et politique n'est pas entièrement rationnelle, qu'elle ressortit à des lois statistiques, elle a affaire à un monde de passion, à un monde décousu, incohérent, dans lequel on ne peut pas trouver des lois nécessaires et universelles, comme en géométrie. Et en ce sens-là, il était très opposé à Platon, n'est-ce pas ? Platon, le géomètre. Enfin, laissons Platon et Aristote, et disons qu'en cela, au moins, je pense que je me sens plus près d'Aristote que de Platon. Mais même malgré les apparences, je pense qu'Aristote est moins réactionnaire, en prenant le mot dans son sens aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors, comme vous voyez, cette découverte n'est pas tellement moderne, puisque Aristote le savait et le disait, mais avec une lucidité, et avec des formules frappantes, une lucidité extrême. Il le disait comme un philosophe d'aujourd'hui.
Vladimir Jankélévitch, le choix des critères, vous avez été amené à vous engager souvent. Vous dites que la difficulté est à la fois de marier ses contraires, peut-être ses contradictions, en tout cas d'accepter de marier cela, et souvent de laisser tomber une part de vous qui vous est chère, au niveau de l'argumentation, au niveau de ce qu'elle représente dans votre vie personnelle. Est-ce que vous vous êtes posé la question des critères ?
Si je me la suis posée, c'était pour l'écarter tout de suite, pour la même raison, oui. Qu'il n'y a pas de loi générale et universelle, comme le disait donc Aristote, ce qu'il appelle toc catelou, c'est-à-dire l'universel, il n'y a pas non plus de critères, un critérium, comme pour les experts d'art, par exemple, pour savoir que c'est pas un Rembrandt, vous voyez, la signature, il manque quelque chose, la touche, la façon de peindre, n'est-ce pas, ça peut pas être de Rembrandt. Bon, ça, ils savent ça, et il y a même l'analyse chimique, il y a donc des critériums,
en grec, scientifique, oui.
Ça veut dire un moyen de distinguer, n'est-ce pas, il y a des moyens de distinguer l'authentique et l'apocryphe, n'est-ce pas, il y a des moyens souvent très fins, mais avec le microscope, l'analyse chimique, on peut y arriver. Alors, dans ce domaine-là, il n'y a pas de critère, évidemment. Il n'y a pas de critère. C'est une affaire de tact, de divination, d'intuition, de dire quelle est la chose la plus importante. Il y a des cas où ça paraît presque évident. Mais la plupart du temps, c'est une question de rapport, de rapport entre l'importance de l'enjeu et l'importance de l'enjeu, son urgence également, et d'autre part les moyens dont je dispose. Et par exemple, dans les problèmes où l'action est très urgente, où le péril concours est très grand et mortel, vital, ce qui revient au même, quand la France est envahie, piétinée par l'occupant, par des bêtes féroces, n'est-ce pas, alors à ce moment-là, on a guère le choix des moyens. Que voulez-vous, faire sauter un viaduc quand il passe un train, c'est une chose devant laquelle on n'hésiterait pas. Mentir n'est pas seulement une chose permise, mais c'est même un devoir. C'est le plus sacré des devoirs.
Vous dites, Vladimir Jankélévitch, dans ce livre, quelque part dans l'inachevé, chez Gallimard, vous dites que mentir à un nazi est ou était le plus sacré des devoirs.
Si je le crois, si je le dis, et si je le maintiens, je vous crois que je le dis. Et je le répète plus que jamais, puisque les nazis, après tout, sont des hommes que par hasard, n'est-ce pas ? Et leur dire, leur mentir, mentir à un nazi, ce n'est pas mentir, c'est dire la vérité, n'est-ce pas ? De même que dans certains cas, et même quand il ne s'agit pas de nazis, il peut arriver qu'il faille mentir pour des raisons plus importantes que la vérité. Par exemple, ne pas dire la vérité à un malade. En France, en général, et en cela, la médecine française est plus humaine que la médecine américaine, me dit-on, m'a-t-on raconté, moi je n'en sais rien, mais on me l'a dit, aux États-Unis on dit toujours la vérité, à un mourant on lui dit tu vas crever, enfin sans le tutoyer, on lui dit vous en avez pour 3 mois, c'est gay ça, vous en avez pour 3 mois et par conséquent prenez vos dispositions. Eh bien en France on fait pas comme ça, et on estime avec raison que ne pas lui dire la vérité et peut-être le prolonger ainsi, c'est encore le soigner, c'est pas ? Par conséquent la vérité n'est pas tellement la vérité. Eh bien, ce qui est vrai pour la médecine, parce que la médecine a affaire à l'homme total, avec la conscience, la passion, la sensibilité, etc., est encore plus vrai de la pratique quotidienne, dans laquelle la vérité devient le mensonge et le mensonge la vérité.
Vladimir Jankélévitch, je vous propose d'écouter la question d'un auditeur.
Allô, bonjour, monsieur. Monsieur, je vous remercie de me permettre d'intervenir dans l'émission.
C'est la raison d'être de cette émission, monsieur.
Je voulais faire une petite remarque à propos de ce qu'a dit tout à l'heure M. Jankélévitch. Il a dit que tout le monde était en quelque sorte militant parce que chacun avait une opinion. Mais je crois quand même qu'il faudrait peut-être distinguer entre avoir une opinion et être militant, c'est-à-dire en quelque sorte faire du prosélytisme. Et à ce propos, je voulais rappeler, n'est-ce pas, une petite boutade que j'avais faite il y a quelques temps, je crois, à France Culture. J'avais dit ceci, c'est que le militant, à mon avis, vous êtes considéré comme un militaire qui porte son uniforme à l'intérieur de son esprit. Et puis, le militant prétend généralement qu'il connaît bien les problèmes et les solutions aux problèmes, parce que ce sont ceux de la société où il est plongé. Il me semble que rien n'est plus difficile à analyser que le système dans lequel on est inclus. Je n'en veux pour preuve que la difficulté que l'humanité a eue de se reconnaître habitante d'une petite planète tournant autour du Soleil. Longtemps après Copernic, l'héliocentrisme n'avait pas encore supplanté et éliminé le géocentrisme. Pour parvenir rapidement à un résultat, il aurait été préférable d'être un habitant de Sirius.
Vladimir Jankélévitch, donc réponse à cet auditeur qui, s'il le souhaite, reste en ligne et continue bien sûr à dialoguer avec Vladimir Jankélévitch.
Je ne crois pas avoir dit, ou bien alors, peut-être que vous ne m'avez pas très bien compris, monsieur, je ne crois pas avoir dit qu'il suffit d'avoir une opinion pour être engagé. Bien entendu, il faut distinguer, et en réalité, avoir l'opinion de son propre intérêt, par exemple. Tout homme, en ce sens, serait engagé, parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire pour gagner de l'argent, pour devenir puissant et riche, pour tenir les rênes du pouvoir, et en ce sens, tout le monde est engagé. Mais bien entendu, c'est une caricature. Donc, j'appelle engagement, d'un mot que j'aime pas tellement, d'ailleurs, puisque finalement, ça me paraît tellement nécessaire que c'est pas un problème à part, quelque chose dans lequel une valeur morale est en jeu, évidemment. Et d'autre part, ça pose le problème de l'appartenance à un parti. Nous n'avons pas encore dit un mot. Un militant d'un parti, c'est-à-dire qui a une activité de propagande, qui colle des tracts, qui suit des réunions, qui fait partie d'une organisation. Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Je le crois, pour des jeunes notamment, et c'est une des conditions de ce qu'on appelle le militantisme, mot que je n'aime pas beaucoup non plus, parce que d'un militant, si en effet le militaire, comme vous l'avez rappelé, très justement. Donc, il faut distinguer, à ce point de vue-là, entre le fait que tout le monde, le voulant ou ne le voulant pas, volins ne lins, comme on dit, est en un sens engagé, et même quand il ne fait rien, même quand il ne dit rien, et même quand il refuse de s'inscrire à un parti. Il fait le jeu de quelqu'un. Vous faites toujours le jeu de quelqu'un.
Monsieur, vous êtes satisfait de la réponse de Vladimir Jankélévitch? Est-ce qu'il a répondu à tous les aspects que vous soulevez?
Non, pas tout à fait, parce que moi, justement, je disais également que le militant était un militaire qui avait en quelque sorte son uniforme à l'intérieur de la tête, et puis que les militants prétendent connaître bien les problèmes parce qu'ils sont justement plongés dans les problèmes. Et il n'y a rien de plus difficile que d'analyser des problèmes dans un système au sein duquel on est inclus.
Bien entendu, puisque la problématique elle-même exige qu'on projette devant soi, c'est le sens du mot problème, en grec, problème, jeter devant soi, quelque chose qui est à quoi je ne participe pas durant que je l'envisage, comme un objet, objet a un peu le même sens, et que lorsque je suis compris moi-même dans ce problème, alors je suis renvoyé à ce que Gabriel Marcel appelait un mystère, c'est-à-dire un problème qui m'enveloppe. Non seulement il est devant moi, mais je suis dedans. Je suis à la fois dedans et dehors. Ce sont des mauvaises conditions, évidemment, pour en débattre, pour en discuter. Mais je ne sais pas, au fond, de quoi nous discutons, mon interlocuteur et moi, parce que je crois que nous sommes tout à fait d'accord. Et j'ai toujours pensé que la pratique sociale est une pratique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des lois, elle ne détermine pas des lois, et ni à plus forte raison des théorèmes, et qu'elle n'isole pas des vérités univoques, valables pour tout le monde, mais que c'est une manière d'agir sur le monde, une manière souvent tâtonnante, incertaine, approximative, en faisant au mieux, comme disait Leibniz, qui avait un sens très aigu également de l'approximation exigée par l'action et par le monde où nous vivons. On fait au mieux en tenant compte de conditions contradictoires. Donc l'enchevêtrement des intérêts, des passions, des valeurs est tel dans le monde où nous sommes plongés, dans ce monde de misère, enfin, et de ce monde passionnel, de dissension, que évidemment il est très difficile d'établir, d'être le porteur de la vérité et de militer en son nom. C'est pourquoi je dis que quand on milite, c'est dans des cas extrêmement urgents, très importants, et souvent d'une manière aveugle, par des choix et des options aveugles.
L'action, comme le mouvement se prouve en marchant, l'action se prouve en agissant.
Elle se prouve naturellement en agissant, et c'est encore une expression. Vous citez Aristote dans Le Savoir. C'est Aristote qui dit des choses
comme
ça.
Pour le mouvement, oui.
On apprend à jouer de la cithare en jouant. on apprend à nager en nageant, à monter à cheval en montant à cheval. Il y a deux philosophes qui disent ça et dans tout, de toutes les manières et qui sont du même côté. C'est au fond, c'est Bergson et Aristote. C'est dans Bergson également, dans les Leçons créatrices. En le faisant, on le fait, on le sait en le faisant. Mais en le faisant, ça me dit pas comment il faut le faire. Et généralement, on est incapable de dire comment on fait. C'est comme si vous demandiez à un virtuose comment il fait pour jouer les études transcendantes de Liszt.
Et si on lui dit comment il le fait,
vous... Eh ben, il fait des fausses notes. Alors à ce moment-là, il s'arrête, il a le vertige, et puis il abandonne le piano. Vous le troublez. C'est comme quand c'est un acrobate qui tient sur un pied à la flèche de Notre-Dame ou de Dôme des Invalides. Si vous lui dites comment faites-vous, eh ben il tombe dans le vide, n'est-ce pas? Surtout ne lui parlez pas, ne dites rien. Il tient debout tant que il est innocent, tant que vous ne lui dites rien. Eh bien, l'action quotidienne n'est pas si dangereuse que l'acrobatie, mais c'est quand même une acrobatie entre les thèses contradictoires, entre les criailleries opposées, n'est-ce pas? Et c'est une chose que nous connaissons, nous autres, professeurs, et notamment les professeurs de philosophie, qui ont été souvent les plus malheureux, mais quelquefois les plus heureux, pendant la grande crise, n'est-ce pas, dont on a tellement bavardé ces derniers temps, vainement d'ailleurs. Et nous étions très exposés, et pourtant on pouvait être très heureux pendant cette période, c'est ce qui m'est arrivé. Et finalement, c'est dû au fait que c'est là qu'on est plongé dans le monde des passions, et qu'on pose des problèmes les plus urgents, les plus criants, les plus déchirants, immédiatement. Vous savez, les professeurs de minéralogie, ils se défendent toujours. Mai 68, ça n'existe pas pour eux. Et les professeurs qui enseignent des choses très difficiles, pas, et, qui ont des hautes compétences, c'est pas comme nous.
Les sciences un peu plus précises que les autres.
Oui, enfin, ils se précisent, et puis ils savent des choses. Nous ne savons rien, bon, c'est entendu, nous sommes incompétents à tout. Mais par contre, nous avons affaire à forte partie, puisque tout le monde est compétent en morale et en philosophie. Donc, les passions sont déchaînées, et c'est nous qui aurions pu être les plus malheureux.
Madame, oui.
Allô?
Oui.
Oui, bonjour, monsieur. Je voulais vous demander... Quelle différence faisiez-vous entre un engagement politique et une étiquette politique? Je vous pose cette question parce qu'au mois d'octobre, j'ai été amenée à faire une grève de la faim pour des raisons vraiment très sociales. De cela, j'avais écrit plusieurs articles et j'avais diffusé ces articles au Figaro, France Soir, Parti communiste, c'est-à-dire Humanité Dimanche, Parti socialiste.
Mais dans cet article, madame, vous exposiez en gros quel...
Le cas de milliers de femmes seules avec des enfants qui n'osent pas l'exprimer et qui ont vraiment la misère, enfin vraiment en misère. Hein. Et de cela, on m'a mis une étiquette politique en disant « elle est communiste ». Alors je voulais savoir ce que ce monsieur en pensait, s'il vous plaît.
Madame, c'est très facile ce que j'en pense.
Vladimir Jankélévitch.
C'est très facile ce que j'en pense. En faisant la grève de la faim pour des raisons aussi élevées, vous avez un geste hautement moral. Hautement moral, vous avez montré ce que c'est que l'engagement au meilleur sens du mot, c'est-à-dire que vous avez fait une chose qui, en apparence, est inutile, parce que ça sert à rien de se priver de nourriture
en apparence. Mais ça a servi, parce que j'ai eu des résultats.
Pardon ?
J'ai eu des résultats à la suite.
Et alors, même quelquefois, ça sert beaucoup. Et même si ça n'avait servi à rien, la morale n'est pas nécessairement quelque chose qui sert à quelque chose. Donc, c'est hautement politique. Alors, pour ce qui est donc, l'étiquette qu'on vous a collée dans le dos.
Engagé politiquement, c'est ça que je voulais dire.
Vous pouvez pas empêcher les gens d'être stupides.
En politique.
Bon, d'abord, cela rien de déshonorant d'être communiste,
pour commencer. Mais je n'étais engagé dans aucun parti.
Oui.
Vous voyez?
Oui, je comprends. Mais primo, faut pas considérer ça comme un déshonneur, c'est pas... Ça n'a rien à suivre, ça n'a rien de déshonorant, bien au contraire. Et puis deuxièmement, il y aura toujours des idiots, on peut pas empêcher qu'il y ait des idiots. Tout le monde a été victime de simplification de ce genre, tout le monde a eu une pancarte dans le dos, moi aussi, j'en suis pas mort, il faut s'y habituer. Et ce que vous avez fait est très chic, très beau, très chic, élégant. Si je voulais employer un mot un peu esthétisant.
Un peu littéraire.
Pour votre geste, un peu littéraire. Enfin, très, très chic.
Payez ce terme, mais vous savez
justement,
que
vous n'avez pas choisi la facilité, vous avez choisi la difficulté, et ça m'a mis un résultat. Par conséquent,
ça m'a mis un résultat, et maintenant nous sommes plusieurs femmes à essayer de faire une lutte, parce que franchement, nos problèmes à nous sont vraiment très, très graves, hein. Moi, j'habite un quartier spécialement très ouvrier, et nous nous trouvons... Enfin, tout le monde n'a pas une force morale, parce qu'il faut vraiment être très forte moralement et physiquement pour surmonter tous les problèmes que nous avons. Et le quartier où j'habite, c'est vraiment effroyable. Nous avons des femmes qui vont jusqu'à la prostitution pour nourrir leurs enfants. et de cela, il y a aucune aide. Et moralement, elles sont très déprimées parce que nous n'avons pas de centre où nous rencontrer et nous sommes vraiment très abandonnées.
Vladimir Jankélévitch.
Mais écoutez, j'abonde tellement dans le même sens que ce qui me trouble un peu et qui me gêne, c'est que je ne vois pas sur quoi plus je pourrais discuter avec vous sur ce
si,
point,
étant donné
que j'admire votre comportement et que je le trouve véritablement un exemple très frappant de ce qu'il faut faire.
Vladimir Jankélévitch, il y a une question quand même que soulevait peut-être cette auditrice, c'est le fait de savoir si une action en apparence inutile avait une vertu exemplaire, vertu morale.
D'abord, comme vous le voyez par cet exemple également, personne ne peut dire a priori qu'un geste gratuit dont on est l'auteur est d'avance inutile. On ne peut jamais le dire. Malheureusement, c'est souvent le cas, mais dans certains cas, ça peut ne pas l'être. Et souvent, le grain germe et la moisson se lève au moment où on s'y attendait le moins. Lorsqu'on a cru faire une chose inutile. Et ce qui est vrai de cet acte dangereux auquel cette auditrice s'est livrée et dans lequel elle s'est engagée avec son corps, n'est-ce pas, et en mettant en jeu sa santé, est vrai de choses moins importantes, moins graves, moins dangereuses, comme de signer des choses qui paraissent inutiles et qui, par un moment, se révèlent utiles. N'est-ce pas, nous faisons des telles choses inutiles qui servent absolument à rien et qui, en plus, sont... n'engage que notre stylographe et notre verve, notre faconde. Mais dans certains cas, il peut arriver que, brusquement, on nous fasse cadeau du prisonnier pour lequel nous sommes intervenus. C'est arrivé. C'est arrivé, brusquement, nous apprenons que Piouch est libéré. C'est comme un cadeau qui tombe du ciel. Naturellement, ceux qui le libèrent obéissent à certaines raisons aussi, mais enfin, ils considèrent également que c'est de leur intérêt, mais peut-être que c'est l'action elle-même, cette action inutile, impuissante, gratuite, qui a germé, dont l'idée a germé dans le cerveau de quelques écrivains, intellectuels, professeurs parisiens, et qui brusquement a donné des résultats. Alors on peut dire que la libération a eu lieu pour d'autres raisons, j'en sais rien. Je peux pas le garantir. Il n'y a aucune certitude en ces matières. Mais enfin, ce qui paraît inutile aujourd'hui peut s'avérer utile demain.
Vladimir Jankélévitch, je vous propose d'écouter la question d'une auditrice, madame.
Allô, bonjour, monsieur Jankélévitch. Je voudrais savoir comment on peut concilier la recherche d'un essentiel qui ne peut jamais être saisi, si ce n'est en l'appréhendant sans pouvoir le nommer, et l'engagement politique qui, lui, nécessite une prise de position. Certes, d'abord dans une dimension beaucoup plus matérielle, mais qui touche ensuite la vie de façon plus fondamentale.
C'est une belle question.
En ce terme, enfin, je voudrais savoir comment concilier la volonté authentique de savoir qui pousse à approfondir et qui meut le philosophe, qui lui pousse à tourner et à retourner les notions et les mots pour éviter le plus possible l'erreur à défaut de prétendre savoir la vérité, et une recherche... Enfin, d'autre part, plutôt une prise de position politique dans un contexte social où on est conduit à simplifier, à schématiser pour pouvoir avoir un impact.
On est au cœur de la question. Vladimir
oui,
Jankélévitch.
En effet, on est au cœur de la question. Vous abordez de plein fouet, madame, le décousu fondamental de la condition humaine et l'incohérence, le manque de rapport, ce que j'appelle volontiers le sporadisme.
C'est-à-dire le sporadisme des valeurs.
C'est ça.
C'est-à-dire
pas seulement des valeurs, mais des activités de l'homme. En effet, l'homme dont l'objet est la vérité, dans la vérité fine, dans le corps, au cœur de la matière, et dans l'immensité de l'espace, enfin la vérité, et qui implique donc une attitude de détachement, de rigueur, et qui use de l'instrument mathématique, notamment, et d'autre part, l'action sur le monde qui l'entoure, qui est une action irrationnelle, mais ça c'est pas de ma faute si c'est comme ça, c'est le décousu de la condition humaine, je vois pas de moyen à désaccorder entièrement.
Oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'une dégradation, justement, d'une recherche qui tend vers l'authenticité et la pureté, qui vise à éliminer les scories d'une pensée galvaudée, et d'autre part, la nécessité de se souiller inévitablement dans un engagement qui souvent...
Ah ben, si vous avez un moyen de faire entrer la pureté dans l'action politique, alors ne manquez pas de nous le dire. Il me semble que, justement, c'est ce rapport qui n'existe pas, qu'il faut réinventer à tout moment. Ça ne veut pas dire que l'homme vit dans des conditions vertigineuses de déchirure chirurgicale, en quelque sorte, incapable, sanglante, ensanglantée, incapable, par conséquent, de faire un pas en avant. Mais ça veut dire que c'est un travail qui nous incombe jour après jour et qui exige une création quotidienne pour ajuster une pratique qui par elle-même si rationnelle, décousue, ayant affaire donc à un monde de valeurs incohérentes, et d'autre part les exigences impératives, imprescriptibles de la raison, et de la logique, de gouverner par la logique. Et par exemple, ce que nous venons de dire il y a un instant sur non pas seulement la permission de mentir, mais l'obligation de mentir. Vous en êtes un exemple. S'il y a un moyen d'être pur, c'est bien de dire la vérité, en toute occasion. Alors, vous n'avez pas vécu pendant la résistance, pendant l'occupation, je le souhaite tout au moins, madame, je ne vous souhaite pas d'y avoir vécu pendant cette période-là. S'il y avait eu un résistant dans votre armoire, et que les flics Bosch venant le chercher, vous aviez dit oui, il est dans cette armoire, parce que c'est la vérité. Vous l'auriez dit, madame ?
Ah non, je ne l'aurais pas dit.
Ah bon, alors vous n'auriez pas été pure.
Non, je n'aurais pas été pure, mais je veux dire, comment concilier les inconciliables alors qu'au niveau d'une quête plus personnelle, on vise tout de même à une harmonie dans la personnalité
en... Ah ben ça, madame, on fait ce que l'on peut. Les inconciliables, on les concilie peut-être à la limite, c'est à l'horizon, mais quelquefois, on ne le peut pas, comme on ne peut pas servir tous les intérêts, satisfaire tout le monde, et les exigences contradictoires, et de même les valeurs contradictoires, de la même manière, on ne peut pas concilier pleinement l'une avec l'autre les exigences du vrai... Et les exigences du bien, de l'amour, tout simplement. L'amour a des exigences imprescriptibles, plus fortes que tout. Je dis volontiers que l'amour, c'est la survérité. L'amour est plus vrai que la vérité. Vous ne dites pas la vérité à quelqu'un que vous aimez, par exemple. Et plus vous aimez quelqu'un, moins vous lui dites la vérité. Sauf quand elle est agréable, naturellement. Vous lui dites pas quand elle est malade, tout de même. Vous aimez bien quelqu'un, madame. Vous n'allez pas lui dire, si, par exemple, cette personne est laide, ou malade à mort, vous n'allez pas lui dire la vérité. Je vous prétexte que c'est la vérité, quand même. Et je vois pas de moyen de la lui dire. Je dirais que, si vous n'arrivez pas à concilier l'un avec l'autre, c'est parce que vous vous faites une idée trop figée, trop stéréotypée de l'idéal. Parce que vous considérez que la vérité peut être vraie jusqu'au bout. Et que l'amour n'a pas de rapport avec elle. Eh bien, je dirais que l'amour est plus que vrai.
Enfin, par rapport au problème de la vérité, parce qu'il me semble que, bon, la vérité, on sait bien qu'on ne l'atteindra jamais telle qu'elle. Et il me semble qu'on essaie, justement, par une recherche approximative et authentique surtout, d'essayer de trouver quelque chose. C'est pas exactement la vérité qui me bloquerait, parce qu'il est certain que son aspect trop idéal pourrait vite réduire à l'impuissance. Ce n'est pas exactement cela. C'est d'un côté une exigence d'authenticité qui est vraiment paraît essentielle, et de l'autre, la nécessité, quand on vit dans l'action politique, bon, de schématiser, de caricaturer, de rentrer dans un système de compromis qui me paraît aller justement à l'encontre de cette vérité essentielle.
C'est Vladimir Jankélévitch.
C'est parce que vous séparez l'action bienfaisante, la véritable action politique, de l'authenticité. Je dirais même que la façon d'être authentique, dans ce cas-là, c'est d'être approximatif. C'est l'approximation qui est authentique. C'est l'approximation qui est vraie, n'est-ce pas, qui est rigoureuse. C'est parce que c'est elle qui me permet finalement, à la limite, d'atteindre le plus possible un idéal. Ce n'est pas de dire la vérité comme une brute, la vérité à 100%, depuis A jusqu'à Z, et qui est un mensonge. C'est ainsi qu'est la condition humaine. La vérité jusqu'au bout, la vérité à tout prix, c'est un mensonge. Et au contraire, la vérité vraie, la vérité humaine, eh bien c'est celle qui n'est pas vraie jusqu'au bout. C'est celle qui sait s'arrêter à temps. Quand il faut-il s'arrêter à temps et dans quelles circonstances ?
C'est la question.
Ça dépend. Voilà, je répéterai le mot, ça dépend.
Vladimir Jankélévitch, en direct avec les auditeurs, les 7 et 8 juin 1978, deux extraits des après-midi de France Culture proposés par Thierry Garcin et Claude Hudelot sur le militantisme, l'engagement et l'action politique d'abord. Puis, le lendemain, les philosophes peuvent-ils et doivent-ils proposer une morale ? Extrait.
Merci Vladimir Jankélévitch d'être avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous aviez entamé hier ce dialogue avec les auditeurs sur le thème de l'engagement et de l'action politique. Est-ce que vous pensez, Vladimir Jankélévitch, que les questions de morale font partie de l'objet de la philosophie ? Et puis peut-être d'abord tout simplement, quel est l'objet, dans un premier temps, de cette philosophie, de toute philosophie ?
Oui, il y a beaucoup de questions contenues dans celles que vous me posez. Un philosophe a-t-il une morale à proposer ? C'est une question qui m'inquiète un peu, parce que je crois qu'en aucun cas, un philosophe n'a dans sa poche une morale à proposer. Les prêtres en ont une, c'est celle de leur religion, et celle qui correspond à leur foi, à leur profession de foi, mais un philosophe n'a pas, à proprement parler, une morale à proposer. Moi, en tout cas, j'en ai pas. Et je peux pas dire que j'ai ma solution et la solution stoïcienne, ou la solution épicurienne, ou telle autre, ou la solution kantienne. Non seulement je pense que le philosophe ne doit pas se désintéresser de la morale, mais il y a des moments où je pense que la morale, c'est la philosophie par excellence. c'est la philosophie elle-même, dans sa quintessence, et que c'est là qu'elle est peut-être à l'état pur. Et c'est là qu'on reconnaît la difficulté de définir la philosophie, de lui trouver son objet, de la déterminer, de lui découvrir un objet assignable. Ce que je crois avoir dit hier, n'est-ce pas, quand nous avons parlé de la faculté de poser non seulement un problème, mais le problème du problème. La philosophie pose le problème des problèmes. Non pas tel problème déterminé, comme le problème des végétaux pour la botanique, des minéraux pour la minéralogie, etc., et le problème des astres pour l'astronomie, mais la raison d'être de ce problème, en général.
Ce qui intéresse la philosophie, c'est que le problème soit insoluble, ou est insoluble.
C'est-à-dire qu'elle ne le choisit pas parce qu'il est insoluble, mais il se trouve que ce problème du problème est insoluble. Si elle les choisissait parce qu'ils sont insolubles, ce serait de la perversité. Alors, ce serait par le désir, l'amusement de l'absurde ou de l'insoluble. Mais on découvre qu'il est insoluble, et d'ailleurs, c'est autre chose de dire il est insoluble, et c'est autre chose de dire qu'il se résout à l'infini. Il ne cesse pas de se résoudre, et de se reformer d'ailleurs. Donc c'est un problème perpétuellement renouvelé que l'on résout à l'infini. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est donc une découverte, si vous voulez, passionnante, encore qu'on n'entreprenne pas, parce que c'est un voyage passionnant, naturellement. C'est pas une découverte comme un voyage d'agrément.
Je voudrais alors, sur cette question de morale, Vladimir Jankélévitch, que vous nous disiez peut-être pourquoi, pour vous, l'exigence morale, sinon la morale, l'exigence morale, et c'est votre terme, si je me souviens bien, est impalpable.
Elle est impalpable, d'abord pour les mêmes raisons que l'est en général l'objet de la philosophie. Les étudiants, les élèves, ne manquent pas de remarquer que le professeur de philosophie passe beaucoup de temps à définir l'objet de sa science, de sa discipline, et que même il arrive qu'à la fin de l'année, il en soit encore au préliminaire. Il passe toute son année à définir la philosophie. De là, beaucoup de sarcasme, on en ricane, bien volontiers, qu'est-ce que c'est que cette discipline qui prétend exister et qui n'est même pas capable de se trouver, de se définir. La minéralogie, je sais pas pourquoi j'en parle tout le temps, la pauvre, c'est parce que je la révère d'abord, et que j'ai connu un grand minéralogiste, qui était un homme remarquable, et quand même une grande personnalité morale également, Jean Orcel. Je suis heureux de pouvoir citer son nom, et de dire au contraire beaucoup de bien de cet homme de bien, de ce juste. Il avait la chance d'enseigner une philosophie, une discipline très palpable, n'est-ce pas, les minéraux. Les minéraux, c'est beau à voir, c'est pondérable, ça parle au toucher, ça parle à la vue, et le musée de minéralogie qu'il a tant contribué à enrichir au muséum est un musée des merveilles qui étincelle, des gemmes étincellent sous vos yeux. Le philosophe n'a pas cette chance, il n'a pas d'objet, et par conséquent c'est pas la peine de se moquer de lui parce qu'il cherche à se définir. En réalité, ces préliminaires sont la philosophie elle-même. C'est pas, au fond, c'est pas une introduction. Toute la philosophie est elle-même une introduction à quelque chose. Mais en réalité, on fait de la philosophie tout le temps, on monte dans le train en marche, en quelque sorte. Donc dès le premier jour, quand on cherche, et avec la collaboration des étudiants et des élèves, ça n'est concevable qu'ainsi, à la définir, on pose déjà le problème philosophique. C'est déjà de la philosophie. Chercher à savoir si elle existe, pourquoi elle existe, en quoi elle consiste. Et d'ailleurs, elle ne consiste en rien, au sens de consister. Elle ne peut pas montrer son objet et le dire, mais le fait même qu'on puisse en discuter est déjà philosophique. La morale de même. La morale de même. Et dans ces dialogues naissants que j'ai avec des auditeurs lointains, et qui tous disent...
Et qui va se prolonger tout de suite, d'ailleurs, avec une autre question.
Intéressante. Nous posons déjà le problème moral, en demandant quelle morale, en demandant pourquoi la morale, et comment se définit-elle. Et quand je me défends, difficilement, maladroitement, je l'avoue, en disant, je peux pas la définir, elle se définit pas. Il y a des raisons à cela. Et c'est déjà une discussion morale.
Je vous propose d'écouter une autre question, Vladimir Jankélévitch. Monsieur.
Oui, je voudrais demander au professeur Jankélévitch si la tentation de donner une morale n'aboutit pas précisément à une tentation totalitaire, celle d'un Platon, par exemple. Si je compare Socrate à Platon, Socrate n'enseigne aucune morale. Et il faudrait aussi réfléchir sur le rapport du philosophe à la cité. Socrate ne prétend pas enseigner une morale précisément parce qu'il est intégré à la cité. Et la tentation de donner une morale vient peut-être d'une décomposition dans le rapport de l'homme à la cité.
Eh bien, je crois que vous me comblez, en effet, je suis complètement d'accord avec vous, ce qui n'est pas favorable à la discussion, mais favorable au contraire à l'harmonie. C'est bien ce que je pensais lorsque je me disais inquiet de l'idée de proposer une morale. N'est-ce pas? Je crois que c'est en effet le par quoi j'avais débuté. J'hésiterais à en proposer une. Vous remarquez de votre côté qu'on reconnaît là souvent la tentation totalitaire, je n'y pensais pas, mais en effet, on peut très bien l'admettre, ça commence comme ça. Alors, pour ce qui est de Platon, ce sont des problèmes historiques, je défendrai un peu Platon, pas entièrement quand même. Platon était séduit par le totalitarisme. Il a un côté comme ça, incontestablement, qui s'accentue avec l'âge. La cité de Platon n'est pas si agréable à habiter, n'est-ce pas, comme chacun sait. Et il diffère beaucoup d'Aristote à cet égard, et je crois que les rôles ont été méconnus et inversés. C'est Aristote qui est proche de nous, qui est pluraliste, qui comprend la diversité, qui comprend l'irrationalité de l'action. Il pontifie beaucoup moins que Platon. Personnellement, je serais plus effrayé par le terrorisme platonicien que par Aristote. Alors, c'est le pauvre Aristote qui a subi les conséquences du Moyen-Âge, la philosophie et la théologie catholique, qui s'est recommandée de lui, et saint Thomas d'Aquin, mais en réalité, il est plus moderne que les deux. Mais ça, c'est une question historique qui ne vont pas résoudre ici, mais je me déclare assez d'accord, il me semble, si j'ai bien compris mon interlocuteur, et je
Monsieur,
crois que j'ai compris,
oui, est-ce que...
je suis d'accord avec lui.
Oui. Je pensais qu'il fallait réfléchir au rapport du philosophe à la cité. Enfin, ça me paraît essentiel. C'est une banalité, c'est essentiel. Le philosophe n'a rien à proposer. Il a à penser simplement des rapports. Il n'a pas proposé des règles de vie.
Oui, ça, je crois que Vladimir Jankevitch ne peut pas vous contredire là-dessus.
Oui, d'accord. Bon, ben, je vous remercie.
Je parle à votre place. Oui.
En effet, il semblerait, après ce que j'ai dit, et comme j'ai une profonde aversion du terrorisme, et je suis bien placé pour la professer, cette aversion, que j'allais dire, en effet, que je n'ai pas à proposer. Mais d'un autre côté, d'abord, il y a la persistance de la demande. Incontestablement, il faut en tenir compte. Les gens qui viennent à vous, parce que il y a des gens qui ont besoin de vous, qui vous demandent quelque chose. Je suis pas un médecin, je suis pas un psychanalyste, Dieu merci, je leur propose pas des remèdes, je suis pas un thérapeute, je les guéris pas, mais enfin, je les comprends de venir. Et je suis pas non plus un prêtre, surtout pas un prêtre, donc je suis rien de tout ça. Et pourtant, j'ai quand même une espèce de rôle à jouer. Et alors, ce rôle exige quand même des directives. Si je réponds à tout le monde, j'ai rien dans ma poche, j'ai rien à proposer, j'ai pas de remède, je vais quand même décourager les gens qui vont s'éloigner. Et il s'agit donc pas de leur proposer un credo, une profession de foi valable pour tout le monde et tyrannique, mais il s'agit quand même d'avoir avec eux un rapport que les Grecs appelaient parénétique, c'est-à-dire d'exhortation. La philosophie morale n'est pas au mode indicatif, n'est-ce pas ? Elle est quand même au mode sinon impératif, parce qu'impératif, c'est encore trop policier, c'est des interdits, des tabous, mais c'est des directives, n'est-ce pas ? Vous avez un nouveau rapport, qui est un rapport beaucoup plus humain, beaucoup plus recherché, qu'on a avec ses semblables, hommes et femmes, et des enfants, qui cherchent auprès de vous un appui, n'est-ce pas ? Ou une consolation. Je n'ai pas le remède à la peine la plus grande du monde, qui est d'avoir perdu un être cher, pour une mère qui a perdu son enfant. Qu'est-ce que je peux lui dire que d'horribles banalités ? Mais on peut faire des choses, on peut faire des gestes d'abord, n'est-ce pas ? Et puis on peut montrer la sympathie, la tendresse, enfin, la compréhension, et puis même un peu de philosophie.
Je m'excuse, professeur, mais la sympathie et la tendresse, ça n'a rien de spécifiquement philosophique.
Bien sûr, mais si vous l'éliminez par avance de la philosophie, et si vous vous contentez du discours didactique que vous faites les philosophes dans leur chair, évidemment, il faut s'entendre. Moi, je pense que nous avons un autre rôle à jouer également, non pas de nous attendrir perpétuellement, mais on me pose une question très particulière, qui est de savoir si j'ai des directives à donner. Si vous ne m'aviez pas demandé ça, je ne vous aurais pas dit que je dois quelquefois une assistance, malgré tout. Une assistance qui n'est pas médicale, qui n'est pas... qu'il n'est dans aucun ordre de reçu et classé, mais quand même une assistance idéologique. Je ne refuse pas ce rôle. J'aimerais bien pouvoir le jouer. Malheureusement, je ne suis pas à la hauteur, tout simplement.
Est-ce que ce n'est pas défini déjà par l'appartenance à une société, enfin une définition de ce qui peut être des rapports humains? Chaque société définit la qualité de rapports humains. Je ne vois pas ce qu'il y a de spécifiquement philosophique là-dedans. Il me semble, par contre, que... ce qui est vraiment véritablement spécifiquement philosophique, c'est le travail de pensée. Et ce qu'un philosophe peut proposer simplement, c'est Ah c'est oui, de travailler à mieux penser, c'est
excusez-moi,
tout.
Nous avons, une question m'a été posée sur le passage à la morale, n'est-ce pas? Si nous revenions en arrière, sur le travail de la pensée, le problème du problème, enfin la philosophie proprement dite, je dirais autre chose.
Il me semble que l'exigence de vérité est déjà une exigence morale. C'est déjà la première exigence, à la fois une exigence intellectuelle, une exigence morale. Et ce que le philosophe a à apprendre, c'est justement à ne pas avoir peur de la vérité, par exemple. C'est en même temps une exigence morale.
Alors, c'est-à-dire que, naturellement, vous pouvez déjà mettre la morale par avance, vous avez raison, également dans la recherche de la vérité. La recherche de la vérité est également une recherche qui a, en un sens, qui a un sens moral. Parce que la morale enveloppe absolument tout, presque tout. La philosophie, le problème moral enveloppe, englobe, habille de tous les problèmes, quels qu'ils soient, y compris le problème de la vérité, il est plus général que les autres.
Je voudrais, Vladimir Jankélévitch, vous poser juste une toute petite question, mais qui rentre dans le cadre, comme on dit, de cette conversation. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de progression morale ou que cette notion doit être manipulée avec beaucoup de précautions ? Vladimir Jankélévitch.
Je crois fermement, en effet, que l'idée de progrès en morale est absurde. Absurde. Il y a peu de choses en morale, mais est-ce que c'est même de la morale? Je n'ose pas le dire. Il y a peu de choses qui sont, dans tous les cas, abominables et qu'il faut supprimer, quitte à pallier à leur disparition par d'autres conséquences. C'était la prostitution et ensuite des femmes et des enfants, et en général la prostitution, et d'autre part, c'est la peine de mort. Arrangez-vous après pour que les inconvénients soient éludés, soient atténués, mais d'abord qu'elles disparaissent. Et je répète que dans une époque pas tellement lointaine, dont je ne serai peut-être pas le témoin, mais dont vous serez le témoin certainement, on se demandera comment cette peine a pu exister, comment il y a pu avoir la guillotine dans une prison, et qu'il y avait même quelques années, les gens venaient pour voir, n'est-ce pas ?
Et ça serait d'ailleurs...
paraît à peine croyable. Alors sur ce rapport, il y a évidemment un progrès, et le progrès continuera. Les mœurs s'affinent, les peines sont moins barbares, il y a donc une approche asymptotique, indéfinie, vers quelque chose... pour lequel on crée des notions, n'est-ce pas, en distinguant la justice et l'équité. Selon la justice, vous êtes condamnable. Selon l'équité, vous êtes excusable. Il faut comprendre. Les sciences humaines nous y aident. La connaissance de l'hérédité, la connaissance plus intime de la psychologie des profondeurs, la lecture dans l'infinitésimale des consciences et des motivations font qu'on est moins sévère. Par conséquent, moins de sévérité, moins de rigueur. Donc, les mœurs progressent. Mais la morale ne progresse pas. Elle est stationnaire. Je veux dire, en deux mots, dans l'an 3000, il y aura encore des menteurs. Dans l'an 3000, les hommes seront fanfarons. Ils tromperont leurs femmes.
Il y aura encore quelques guerres.
Il y aura des guerres encore. Peut-être qu'il n'y aura plus de guerres, parce que les guerres, ça fait quand même partie d'un comportement. On aura fini par les supprimer, grâce aux instances internationales plus efficaces. Pas une ONU vraiment efficace et vraiment équitable. Peut-être qu'on les... il n'y en aura plus. Mais les mauvaises intentions, la jalousie, il y aura des jaloux. Il y aura des jaloux. Il y aura des collègues qui seront jaloux de vous, qui diront du mal de vous quand vous avez le dos tourné. Il y aura donc des calomniateurs, enfin, les petites choses minuscules qui existent dans la vie, que nous connaissons tous, et qui divisent nos sociétés, nos groupements, et qui viennent de nos soi-disant amis, n'est-ce pas? Nos amis disent du mal de nous, et ils continueront à en dire. Donc je suis très pessimiste, comme vous voyez. C'est le noyau moral qu'on n'arrivera pas à résoudre, parce que ça repose dans les replis de la conscience, dans le secret de la conscience.
Vous dites que être innocent, c'est ne pas s'apercevoir, à la limite, pour employer votre terme, qu'on est bon. Et que lorsqu'on s'en aperçoit, on devient un pitre. Je crois que ce sont vos expressions. Vladimir Jankélévitch.
Oui, j'attribue beaucoup d'importance à cette notion un peu enfantine. Alors, ça sera peut-être plus clair si on l'emploie négativement. Quel est l'élément pervertisseur qui est en moi et qui subsistera, qui survivra même à la disparition de l'intérêt personnel? Ce qui me paraît ici l'élément pervertisseur au-dedans de nous, maintenant que dans cette société de l'abondance, pour tous, et dans laquelle l'intérêt personnel n'a plus de raison d'être, ce qui s'oppose à la limpidité, c'est la possibilité de prendre conscience. L'homme qui est conscient ne peut pas ne pas prendre conscience. Il ne peut pas s'empêcher de prendre conscience. Un homme qui est généreux ne peut pas s'empêcher de le savoir, un jour ou l'autre, quand ce ne serait que parce qu'on le lui dit. N'importe qui est perverti du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, par le fait qu'il s'est aperçu qu'il était un homme de bien, qu'on le lui a dit et qu'il l'a cru, n'est-ce pas ? Par conséquent, il faudrait qu'il ne le sache pas. Comment faire pour qu'il ne le sache pas ? Et ce qu'il faut, c'est avoir connu des hommes de bien, des justes et même des saints, des saints, des héros. J'en ai connu. J'en ai connu. Il n'en avait pas conscience. Il ne posait pas pour la postérité. Le véritable héros est toujours le héros d'un instant. Mais évidemment, la minute d'après, c'est pas sûr qu'il s'en soit pas aperçu. Il le saura. Et il le saura parce qu'il est un homme. Et parce qu'il peut pas étouffer en lui la conscience. C'est une tragédie dans laquelle on peut pas sortir. L'homme est un homme parce qu'il prend conscience. Parce que il pense et il sait qu'il pense. Il est et il sait qu'il est. Et il sait qu'il est, il sait à l'infini, n'est-ce pas? Il a conscience à l'infini. Spinoza dit ça mieux que moi. La conscience de la conscience qu'on a conscience, et ainsi de suite. La conscience d'être innocent, par exemple. Je suis innocent, mais jusqu'au moment où j'ai conscience d'être innocent, alors je joue un rôle. Je joue le rôle d'innocent. Je suis un professionnel de l'innocence, un homme qui a commencé par être un enfant, qui était pur comme un enfant, comme l'idiot de Dostoïevski. Et puis qui a entendu dire qu'il était peut-être Jésus-Christ, d'être pur comme ça. Alors, finalement, il s'est mis à en vendre de l'innocence. Il tient bazar d'innocence, si vous voulez. C'est un marchand d'innocence. Alors, à ce moment-là, c'est perdu, quoi.
Je voudrais remercier, en tout cas, nos auditeurs et nos auditrices de vous avoir posé des questions.